Donc le sujet proposé, c'est le corps humain dans le plan divin. En quelques phrases, je vais essayer de poser les problématiques à Guillaume sur le sujet. Donc les problématiques à propos de cette chose qui nous concerne tous, le corps. Formé mystérieusement et merveilleusement par la jonction de deux gamètes, qu'il est beau ce petit enfant. Et puis, il grandit, ce corps il me sert à gambader, à jouer, et puis ce corps il me sert à apprendre à lire, à écrire. Et puis adolescent, il me sert à, comme moyen de séduction. Ah qu'il est beau, je le chouchoute, j'en prends soin, quelque part pour séduire l'autre sexe. Qu'il est beau, et pourtant je l'aime pas. Mais si, il est beau, mais non, je l'aime pas. J'ai des débats surtout avec le regard des autres. Et oui, c'est surtout ça qui me fait mal. Et puis, et pourtant, il me sert à étudier, à découvrir le monde, à découvrir les sciences. Et pourtant, quelquefois, je l'aime pas. Et pourtant, il est beau. Et puis, je peux pas m'en passer pour conduire la voiture, pour venir ici. C'est un bon serviteur. Et puis, il y a cette question de la sexualité. Quelle merveille que la sexualité. Et pourtant, si l'on pouvait savoir les souffrances que cela entraîne dans le monde, les frustrations et même la mort, et pourtant que c'est beau. Alors certains disent, on a perdu la notice. Non, d'autres disent, on l'a jamais eu. Mais si on l'a eu, mais non, on n'en a jamais eu. Ou on l'a perdu, je ne sais pas. J'ai des débats avec ce corps. Avec la sexualité. Et puis, il m'est indispensable. Pour mon métier, je vais ici, je vais là, je travaille. Je ne peux pas m'en passer. Quel bon serviteur. Et puis, les années passent. Ah, je sens qu'il faiblit quand même un peu. C'est-à-dire que je le pousse un peu. Des fois, je le pousse un peu à bout. Des nuits blanches. Trop de travail. Et il se rebelle contre moi. Et pourtant, je ne peux pas m'en passer. Et puis, il tombe malade. Et puis les autres le blessent. Moi je le blesse aussi. Il réagit. Ah, on a des combats avec celui-là. Mais peut-être bien que je le traite mal. Mais je sens bien qu'au fil des années, il s'affaiblit. Il répond plus. Il répond mal. Il va de plus en plus mal. Certes. Oh, qui me fait mal. Oh, parfois. Ouh là là. Je ne sais pas comment ça va tourner avec lui. Et puis bon, ça va mieux. Il me sert encore. Mais au fil des années, je sens que le serviteur est fatigué. Il me fait de plus en plus mal par moment. Et j'ai des problèmes avec lui. Bon, je le soigne tant que je peux, mais il me fait souffrir. Et il ne va pas où je voudrais. Et puis, finalement, il devient un fardeau. Je suis embarrassé avec lui. Je ne sais pas qu'en faire. Et pourtant, il me sert encore un peu. Et puis, finalement, bon, je sais bien qu'il va me lâcher. Un de ces jours, peut-être, un de ces mois, une de ces années. Il va me lâcher. Pourtant, il m'a tellement servi. Moi, c'est fini le temps de séduire. Le temps où tous les deux on faisait quelque chose. Mais au fait, lui, c'est moi. Je parle de lui comme s'il était en dehors de moi. Bon, finalement, c'est peut-être qu'une enveloppe méprisable, après tout. C'est ma vraie identité, lui et moi. Est-ce qu'on est confondu? Est-ce qu'on est distinct? Je ne sais pas trop. Tout ça, ça se bouscule dans mon esprit. Mais je sens qu'il va me lâcher. Et oui, et finalement, je sais qu'il va tomber en poussière. Mais quel drame! Alors qu'il était tellement beau dans la jeunesse, il va tomber en poussière. Mais où est le plan de Dieu à son égard? Je ne sais pas trop. Bon, on parle de résurrection, mais c'est quoi la résurrection? On ressuscite dans le corps qu'on a, on en a un autre, ou on n'est qu'esprit dans le monde de la résurrection? Je ne sais pas trop. Ça. Et tous ces sujets, tu vois, tourbillonnent un peu dans mon esprit, de la jeunesse à la vieillesse, et Je ne sais pas trop. Je me débat avec tout ça. Pourtant, je sens qu'il est merveilleux. Il est l'œuvre de Dieu. Mais j'ai des problèmes, quand même, tu vois.
Eh bien, d'abord, bonjour à chacun et à chacune. Et je ne crois pas que je pourrais serrer la main de chacune et chacun ou embrasser. C'est bien dommage, puisqu'on parle du corps et du contact. On est plus près les uns des autres, on se voit de plus près, on peut sentir des choses particulières. Et C'est fantastique de pouvoir se retrouver aussi nombreux dans une rencontre dans laquelle on peut apprendre à se connaître et juste à s'approcher, à se regarder de plus près. Et c'est fantastique de pouvoir considérer un sujet comme celui-ci, qui est un sujet concret, au sujet duquel je n'ai pas beaucoup entendu parler. Un sujet courageux parce que c'est un sujet transversal, un sujet qui n'est pas abordé de manière directe dans la Bible. Et un sujet qui est très important puisque, comme Lucien vient de le présenter, un sujet qui touche à chaque jour de mon passé, de mon présent et de mon futur et qui peut y toucher de manière très douloureuse. J'ai bien noté dans ce qu'il a dit, il dit « qu'est-ce que je fais avec mon corps ?» Et on va donc lire des expressions qui nous parlent de cette volonté de Dieu d'être manifesté en chair. Donc on va lire dans 1 Timothée, 1 Timothée 3, verset 16, qui dit « sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. » Simplement pour qu'on puisse bien comprendre quelques expressions du passage, le mystère, c'est quelque chose qui a été caché pendant un temps et qui est révélé quand Dieu juge bon de le révéler. Le mystère de la piété, ce n'est pas que la piété soit un mystère, parce que la piété, c'est en fait cette vertu morale, la piété de mettre en œuvre une relation avec Dieu, d'être dans cette relation. Voilà, je m'applique, je m'efforce, je recherche Dieu, je recherche sa face, et donc je vis de piété. Et donc la piété n'est pas un mystère, mais c'est un mystère qui est proposé à la piété. Donc ce mystère-là, cet ensemble de choses qui sont données à la piété, c'est que Dieu a été manifesté en chair, et on lit un peu plus loin que Dieu a été vu des anges. On va lire encore deux ou trois passages dans Hébreux 1, à partir du verset 1er, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, il nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Et nous retenons donc que l'aboutissement de la communication de Dieu, l'aboutissement de la parole de Dieu, l'aboutissement de ce que Dieu a voulu donner depuis autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, cet aboutissement-là, c'est le fait de parler par le Fils. Le Fils est parole de Dieu. La manifestation dans un corps de Dieu est parole de Dieu. Jésus-Christ est parole de Dieu non seulement dans ce qu'il dit, mais aussi dans ce qu'il est. Et ceux qui l'ont vu et ceux qui le verront, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, en Armageddon, chapitre 19 ou sous chapitre 16, on voit qu'il est la parole de Dieu. Et il vient, il est la parole de Dieu et il parle de lui-même. Et ce Fils, il est le resplendissement de la gloire de Dieu et il est l'empreinte de la substance de Dieu. Donc en fait, c'est dire si cette empreinte, resplendissement, est important. Notre expression dans Colossiens, où il est dit du Fils au verset 14, qu'il est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. On va encore lire deux passages. Le premier dans Jean 14. Jean 14, donc, verset 8. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et comment, toi, dis-tu, montre-nous le Père? Et puis un dernier passage dans l'Exode, au chapitre 20 et au verset 4. C'est le deuxième commandement des 10 commandements. Et il est dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, etc. » L'incarnation de Jésus-Christ, ou le fait que Dieu ait été manifesté en chair, est quelque chose qui donne le vertige. Quelle que soit la date de la création du monde, on sait qu'avant cette date-là, Dieu existe éternellement, et que Dieu est esprit, que les choses matérielles n'existent pas. La Genèse commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et il y a un projet de Dieu, une volonté de Dieu qui se met en œuvre de créer le monde matériel. Et Hébreux 11 nous dit que par la foi nous comprenons. Les cieux ont été créés, donc les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Et de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. C'est la parole de Dieu qui a appelé les cieux et la terre à l'existence. Et ce qui donne le vertige, c'est que dans ce monde matériel qui est constitué, à un moment donné, Dieu est manifesté en chair. Dieu vient comme un enfant dans le ventre de Marie, et il y a de ce fait une dimension qui est donnée au monde matériel qui est énorme. Dieu, nous dit la Genèse, vit que cela était très bon. Dieu se réjouit de toute son œuvre qu'il avait faite. Comprendre pourquoi est-ce que Dieu a été manifesté en chair n'est pas de notre ressort. La Bible n'en parle pas, et le rideau est baissé, et nous comprendrons ce qu'il nous sera donné de comprendre à l'enlèvement des saints, quand nos corps seront ressuscités, quand nous verrons le Seigneur durant l'éternité. Mais pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas donner d'explication, en fait, que Dieu se soit manifesté en chair. Mais ce qu'on peut affirmer, par contre, et de manière très forte, c'est que ce monde matériel que Dieu a créé, et ce monde matériel dans lequel Dieu rentre, correspond à quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Dieu vit que cela était très bon. Ce monde correspond à quelque chose dans lequel Dieu a un projet pour lui, dans lequel Dieu veut utiliser chaque parcelle de matière. Et quand je dis matière, il s'agit aussi bien du plancher que de l'air, que du papier pour faire les bibles et les livres et autre chose, que du son de la voix, du mouchoir en papier ou en tissu qu'on aura dans notre poche. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui concerne la matière est créé par Dieu, voulu de Dieu, a été transformé ensuite par l'homme, mais ça a un prix pour Dieu, ça a de la valeur. Et je crois que, voilà, une première application pratique, c'est que, consciemment ou inconsciemment, nous n'avons pas l'habitude de donner une valeur importante aux choses matérielles. Je pense que, habituellement, nous disons, oui, mais ça, c'est les choses de la terre. Ce qui est spirituel est bien meilleur. Nous allons dire, chantez, vers Jésus lève les yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Alors qu'en fait, les choses qui doivent pâlir sont les choses du monde, sont les choses opposées à Dieu, sont les choses qui concernent le système organisé contre Dieu, le monde. Mais les choses de la terre sont des choses qui ont été créées par Dieu, sont des choses qui sont importantes. Et elles sont importantes parce que Dieu leur accorde de l'importance. Et donc à nous d'avoir ce regard sur les choses matérielles, sur les choses qui ont été créées, à nous de savoir voir la main de Dieu